Bon, bah bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais commencer avec vous ce temps en vous posant une petite question, faisant un petit sondage. Je vais vous la faire apparaître et après je vais vous expliquer comment vous allez y répondre. Certains ont déjà eu l'habitude, je l'avais utilisé il y a presque un an. Voilà, il y en a qui sont prêts. Mais avant ça, je vais vous montrer la question que j'aimerais vous poser ce matin et je vais la faire apparaître. La technologie fait bien les choses, parfois. C'était chaud. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, je viens de la taper maintenant, parce qu'elle n'était plus dedans, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, il y a des choses, on ne peut pas. Quelle est, selon vous, la plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire à un ami, à quelqu'un qui vous est cher? Lui faire un cadeau? Première réponse. Il n'y a pas de bonne réponse particulière, hein, je vous rassure, hein, ce n'est pas noté. L'inviter par surprise, prier pour elle ou prendre de ses nouvelles régulièrement. Alors, comment vous allez faire pour répondre à ça? Vous avez eu un petit papier qui ressemble à une sorte de carré. Et autour, vous regardez, pour ceux qui ont des bons yeux, Rita, je ne te vise pas, je dis que tu as des bons yeux, justement, je vois. Vous avez autour du carré, sur chaque côté, il est marqué A, B, C ou D. Et il vous suffit simplement de retourner votre carré de façon à que la réponse que vous voulez mettre, si c'est la réponse A par exemple, elle soit vers le haut, le A soit vers le haut. Dans ce cas-là, vous répondrez la réponse A. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre, pas en photo, mais je vais capter chacune de vos réponses, si vous voulez bien, maintenant. Ça marche? Donc il vous suffit de retourner votre carré en mettant la lettre que vous voulez répondre en haut. Y va? Allez. Et ça marche. Faut bien le mettre droit. Voilà. Super. Là, c'est normal, vous êtes tous des numéros pour moi, je suis désolé. Sur mon portable, bien sûr, hein. Hop, voilà, je prends de façon... Voilà. Dans l'autre sens, Nora. Il faut que je le voie. Ah, tu réfléchis. Ok, très bien. Alors, parmi vos réponses, moi je les ai face à moi. Ce qui est rigolo, c'est que vous n'aimez pas faire de cadeaux. Vous n'avez pas invité par surprise. Personne n'a répondu ça. Et les réponses qui viennent, je rappelle, il n'y a pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. J'ai envie de dire, toutes ces réponses sont des preuves d'amour. Mais celle que vous préférez, c'est prendre des nouvelles régulièrement. Vous êtes 50% à avoir répondu ça. Enfin, un peu plus de 50%, 75%, pardon. Et prier pour elle devient en deuxième position. Alors, pourquoi je vous pose cette question et où est-ce que je veux en venir avec vous ce matin? Eh bien, pour vous expliquer là où je veux vous mener à partir de cette question, et tu peux passer sur le diaporama, je vais commencer par vous raconter une petite histoire, une petite anecdote si vous voulez bien. Récemment, j'observais ma fille Alix faire un puzzle. Vous avez tous fait des puzzles, j'imagine, vous savez comment ça fonctionne, mais j'étais quand même impressionné par la concentration, la dextérité, l'envie qu'elle mettait, surtout pour quelqu'un de son âge, à essayer de chercher bien comment les pièces vont bien ensemble pour faire apparaître ce gros résultat d'ensemble. Et j'étais tellement fier que j'ai pu m'empêcher de la féliciter. Bon, je l'ai félicité un petit peu avant qu'elle ait terminé son puzzle. Bon, il lui restait que 4 pièces. Pour ceux qui ont déjà fait des puzzles, peut-être un peu tout le monde ici, j'ai envie de dire, les 4 dernières pièces, souvent, c'est les plus simples, hein. Le plus dur, c'est au début. Donc je l'ai félicité, et la réaction qu'elle a eue n'a pas forcément été celle à laquelle je m'attendais. Je m'attendais de sa part beaucoup de fierté à son tour, sur son visage, quand je la félicite, et qu'elle me dise « merci papa ». Mais au lieu de ça, ma fille, parce qu'elle a beaucoup de caractère, comme sa mère, et son père, c'est vrai, elle s'est contentée de me dire « attends papa, me dis pas bravo tout de suite, il me reste ces 4 pièces à mettre avant que j'ai terminé ». Et j'ai bien aimé cette réaction, et elle a impacté mon cœur, et je reste persuadé que le Seigneur a su l'utiliser pour me parler ensuite, et notamment au moment de préparer la prédication de ce matin. Au moment de préparer la prédication de ce matin, je priais justement, et je remerciais le Seigneur pour les derniers sujets qu'il m'avait mis à cœur, et la façon dont il avait travaillé personnellement mon cœur en préparant ces sujets. Et je priais avec la sensation justement que, la sensation d'avoir fait avec lui et à travers ses prédications comme un puzzle. Je priais comme ça, c'est rigolo, des fois. Et où justement ces prédications représentaient des pièces qui, selon moi, s'assemblaient bien les unes entre les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 6 mois, par exemple, j'avais commencé par vous prêcher sur comment comprendre les choses les plus inexplicables de la vie, pièce numéro 1. Et parmi les choses les plus inexplicables de la vie, on a par exemple les miracles, pièce numéro 2. J'avais prêcher sur les miracles. Et pour vivre des miracles, il faut une foi forte. L'échelle de la foi, pièce numéro 3. Bref, au fond de moi, j'étais un peu content. Je disais, Seigneur, merci, j'ai fait un beau puzzle avec toi, sans même avoir vérifié qu'en réalité, ce puzzle, un peu comme pour ma fille dans l'histoire que je vous ai racontée précédemment, il était bien terminé. Et quand on pense avoir terminé quelque chose avec Dieu, mais que ce n'est pas le cas, le Seigneur nous ramène rapidement et facilement à la réalité. Et c'est peut-être pour ça que quelques minutes après, et je vous assure que cette histoire est vraie, je suis tombé, je l'ai même dit à mon épouse, on en est témoin, je suis tombé sur ce verset qui dit, dans 1 Corinthiens 13, 2, « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, tiens, la pièce numéro 1, j'aurais beau avoir toute la foi, tiens, la pièce numéro 3, jusqu'à transporter les montagnes, les miracles, pièce numéro 2, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Amen. Il me manquait bien une pièce, au moins, pour finir mon puzzle. Et d'après ce que dit ce verset, c'est la pièce en plus la plus importante, celle qui permet vraiment de terminer le travail. Et cette pièce, c'est l'amour. Je vais donc vous parler de l'amour ce matin, et plus particulièrement de l'amour de notre prochain. Et moi, dès qu'on parle de l'amour d'un prochain, et peut-être vous aussi, il y a un autre verset qui vient et qui me vient immédiatement en tête. Il intervient un peu plus tôt dans la Bible, on le retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 39. Et c'est une parole de Jésus. Et Jésus le présente même, cette chose-là, on va la lire, peut-être que vous l'avez déjà fait, comme un des deux commandements les plus importants à suivre. Et ce commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». D'où le titre de ce que je vais vous partager ce matin, « Aimer son prochain comme soi-même ». Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant ce verset ou si vous venez de le remarquer tout de suite ou si je vais vous le faire remarquer maintenant, mais je trouve que ce verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il est assez marrant, façon de parler, du moins dans sa construction. Il est court, mais il se compose malgré tout de deux parties à la fois différentes, mais qui se regroupent. On a « Tu aimeras ton prochain », certes, mais comme toi-même. Comme si pour bien aimer son prochain, il faut déjà bien s'aimer soi-même. C'est pour ça que je vous propose, pour traiter cette prédication, de la traiter en deux temps. Et dans un premier temps, de voir ce que dit la Bible et ce que dit Jésus sur l'amour de soi. Comment bien s'aimer soi-même? Et du coup, quand on aura vu comment bien s'aimer soi-même, je vous inviterai à voir ensemble comment bien aimer notre prochain. Ça va? On y va? Et donc la première partie... Ah, c'est bon. La première partie, donc, l'amour de soi. Et j'ai titré « L'amour de soi, un juste milieu à trouver ». Pourquoi? Parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand j'imagine l'amour de soi, s'aimer soi-même, on pourra dire aussi l'estime de soi, mon esprit, alors c'est peut-être une déformation, je ne sais pas, hein, franco-française peut-être aussi, me pousse tout de suite à aller vers des extrémités. Quand me vient à l'esprit s'aimer soi-même, bizarrement, vient à l'esprit des idées des personnes qui peut-être s'aiment un peu trop. Vous en avez certainement déjà rencontré dans votre vie. Les gens disent, oh bah celui-là, il s'aime bien quand même. Hein. Peut-être vous êtes déjà dit ça. Une certaine extrémité. Et j'ai envie de dire, allez dire à une personne qui s'aime un peu trop, narcissique, je pense, hein, le terme hein, aussi en France, en français. Allez dire à une personne qui s'aime un peu trop qu'elle doit aimer son prochain comme elle s'aime soi-même, on a envie de dire, elle a tellement d'amour à donner à soi qu'on se demande comment elle en a encore un peu à donner aux autres. Bref, on est face à une incohérence. Mais cette notion de s'aimer soi-même me renvoie également, moi, dans mon esprit, je ne sais pas vous, à une autre extrémité, l'extrémité totalement inverse. Parce que c'est une réalité aussi qu'on a aujourd'hui dans notre société et dans notre monde, on a des personnes qui ne s'aiment pas. Et ça, il ne faut pas le cacher. Et aller dire à une personne qui ne s'aime pas, qui a peu d'estime pour soi, qu'elle doit aller aimer son prochain comme elle s'aime soi-même, elle va vous dire, je ne m'aime déjà pas moi, alors comment je vais faire pour aimer les autres? Bref, on est face ici à des incohérences. En tout cas, mon esprit, moi, personnellement, me mène face à ces deux incohérences-là. Et ces deux incohérences, on les retrouve bien dans notre société d'aujourd'hui. J'ai repris cette étude statistique que j'ai trouvée sur Internet. Mais bon, c'est un site assez sérieux quand même, je vous rassure. Il y a un an, jour pour jour quasiment, on a posé à 10 000 Français la question « Avez-vous une bonne estime de vous-même ? » Autrement dit, est-ce que vous vous aimez bien ? Et ce qui est rigolo dans cette étude, c'est qu'on retrouve ces deux extrémités d'une façon assez claire. On a quand même, bon, ça a été posé à des Français, on est connu quand même pour être assez fiers de nous, hein. On a quand même 44% de ces Français, donc 1 sur 2 quasiment, qui ont répondu « Ouais, je suis d'accord, moi je m'aime bien, tranquille, J'ai une bonne estime pour moi. Mais on a quand même aussi 20%, une personne sur cinq qui ont répondu « Moi, par contre, je n'ai pas d'estime pour moi, je ne m'aime pas. » Et au milieu de tout ça, on a des gens, 36%, qui se situent entre l'un et l'autre. Et j'ai envie de dire, peut-être que c'est eux qui ont raison, parce que quand on se retrouve face à des extrémités dans la vie, le plus juste, souvent, c'est de viser au centre. Je ne suis pas en train de faire de la politique quand je vous dis ça, mais je suis en train de vous dire une véritable réalité spirituelle, parce que Jésus nous invite. Qui est notre centre? Sur qui nous devons être centrés dans notre vie en tant que chrétiens? C'est Jésus. Et que dit Jésus en matière d'estime de soi, en matière d'amour de soi? Il y a une histoire qui illustre bien ça. On la retrouve dans Luc 7, versets 36 à 48, et je vous invite à la lire ensemble. Un pharisien appelé Simon, pas le Simon, pas le nôtre, hein, je précise quand même. Un pharisien appelé Simon avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds. Et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, Simon le pharisien qui avait invité Jésus se dut en lui-même. Si cet homme était prophète, il saurait que qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prenant la parole lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Alors Jésus reprit. Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 euros, l'autre 50 euros. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les deux. À ton avis, lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête, elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. » Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors c'est une histoire qu'on a déjà pas mal entendue, et notamment il y a eu pas mal de prédications là-dessus, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse l'apprendre peut-être avec un autre angle de vue, et notamment par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Parce que précédemment, je vous ai parlé de deux extrémités en matière d'amour de soi. Et ici, ces deux extrémités, on les retrouve parfaitement à travers deux personnages. On a deux personnages particuliers ici. Le premier, c'est Simon le pharisien. Et j'ai envie de dire, Simon le pharisien, il représente parfaitement celui qui a de l'amour pour soi, peut-être un peu trop, qui s'aime bien. À quoi on voit ça? Eh bien, tout d'abord, à la façon dont il considère les gens et notamment ses invités. D'ailleurs, on peut se poser la question... Pourquoi il a invité Jésus ici, Simon le pharisien? Moi, j'ai ma petite version, peut-être que vous me direz si je me trompe, mais je pense que déjà, la façon, s'il a invité Jésus, ce n'est pas dans un bon état d'esprit. Jésus, à l'époque, dans cette histoire, était en plein dans son ministère, hein, il faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Je reste persuadé que Simon le pharisien, s'il invite Jésus, c'est avant tout par curiosité. Qui est ce fameux Jésus qui fait des prodiges et des miracles? Et en plus, j'ai envie de dire... À travers ça, il dit, en plus, si je l'ai à table, parmi mon festin, j'aurai la cote auprès des gens, puisque Jésus, vu qu'il faisait des prodiges et des miracles auprès du peuple, il avait la cote auprès du peuple. Donc, il se dit, tiens, si je l'ai à ma table, en plus, bon, c'est pas mal. J'ai la personne à... Donc, ça va aussi servir son propre ego. Ce qui prouve, parfaitement, notamment, qu'il a une bonne estime de soi, qu'il s'aime un peu trop. Et on le voit aussi à la façon dont il considère cette femme, la femme qui intervient. Il la considère comme moins que rien. Il dit, s'il savait que c'était cette pécheresse, il ne l'appelle même pas, il ne lui donne même pas un nom, il l'appelle juste cette pécheresse. Il se sent au-dessus d'elle, il se sent au-dessus des gens. Bref, on a bien le prototype même d'une personne qui s'aime bien. Et inversement, on a donc cette femme, cette pécheresse, nous on va l'appeler, elle a un nom quand même, on le sait, c'est Marie de Béthanie. Et cette femme donc, qui est une pécheresse, certes, d'après ce que nous dit l'histoire, c'est quand même une personne. Et elle représente bien, inversement, une personne qui a peu d'estime d'elle. À quoi on voit ça? Déjà, à son titre, comme je l'ai dit, on dit que c'est une pécheresse. On ne sait pas trop quel était son péché. Peut-être que c'est l'adultère, peut-être que c'est la prostitution, on ne sait pas. Mais on imagine que ce titre, c'est un titre qu'elle avait et que tout le monde devait lui donner. Et que d'une certaine manière, ça devait interagir sur elle. Et qu'au fond d'elle, elle devait ressentir qu'elle était bah finalement que ça, qu'une pécheresse, et que ça devait donc la rabaisser, ce qui peut nous laisser imaginer qu'elle avait une petite estime d'elle-même. Mais on le voit aussi à son attitude. Si mes élèves étaient là, si je leur montrais cette histoire, bon, il vaut mieux pas dans l'éducation nationale, mais si je leur disais, ils diraient, hey, cette femme, elle a pas d'honneur. C'est vrai, dans son attitude, on voit qu'elle a plus rien à perdre, qu'elle est au bout, qu'elle est au fond, qu'elle a une petite estime de soi, elle se met quand même dans une situation d'humiliation, elle vient s'humilier, elle se met à genoux devant plusieurs personnes, j'imagine, qui n'avaient peut-être pas Simon et que Jésus. Elle vient en tout cas s'humilier. Dans cette attitude, on voit en tout cas d'une femme, le prototype d'une femme qui a une petite estime d'elle, qui ne s'aime pas trop. Et au milieu de tout ça, au milieu de ces deux personnages, on a qui ? Au centre, Jésus. Et que fait Jésus ? Eh bien, Jésus relève la personne qui a une petite estime de soi et il refait descendre d'un étage celui qui en a peut-être un petit peu trop, avec l'impression même que les rôles s'inversent. Que retenir de cette histoire ? Que conclure de cette histoire ? Bah, peut-être que parfois, dans ta vie, tu te sens un peu comme cette femme Marie de Béthanie, que tu as peu d'amour pour toi, que tu as peu d'estime pour toi. Les raisons peuvent être diverses. Matthieu, quand il prêchait récemment, il disait que notamment dans la sensation d'orphelin, ça pouvait notamment être le manque d'estime de soi, je pense. Hein. C'était dans la grille, ça pouvait être aussi résulté de cela. Mais il y a plusieurs raisons aussi. Ça peut être le discours des autres, comme pour cette femme, une réputation qu'on vous donne, qu'on vous a donné, des humiliations, des traumatismes émotionnels qui ont fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez rabaissé au plus profond et que vous dites « je m'aime pas, j'ai peu d'estime pour moi ». Et bien dans ce cas-là, si tu te sens comme cette femme, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Prends cette histoire comme une promesse, une belle promesse. Jésus, si tu te centres sur lui, si tu es centré sur lui, il n'a qu'un seul désir si tu ne te sens pas bien, c'est de te relever. Amen. Et de te relever, et peut-être que tu te dis, bon, tout à l'heure, Geoffrey, tu me parlais, tu me disais, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu le disais, moi je m'aime pas trop, comment je peux bien aimer les autres ? Eh bien, une fois de plus, on le voit ici à la fin de cette histoire, au verset 47, Jésus le dit et le montre. Peut-être que tu penses que tu n'es pas capable d'aimer, mais c'est sans doute toi la personne qui aimera le mieux. Et en tout cas ici, qui de Simon et de Marie de Béthanie était la personne qui aimait le mieux ? Jésus l'a dit, c'est cette femme. Et inversement, je ne vais pas dire, si tu te vois comme Simon le pharisien, que tu t'aimes un peu trop. Non, je ne vais pas dire ça, bien sûr. Mais l'attitude de Simon le pharisien, je pense, doit quand même nous faire réfléchir aujourd'hui. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, où l'individualisme prime, où c'est le moi, l'ego qui prime avant tout, les réseaux sociaux sont quand même une preuve. On fait tout pour mettre en sorte que notre personne, notre moi, soit mis en avant. On doit, par rapport à ça, je pense, se poser une certaine question. Non pas qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'ici on a à bannir, mais on doit se poser la question. Je dis ça parce que je les utilise aussi, peut-être, mais parce que quand même, il faut qu'on se mette à réfléchir. Quelle est notre attitude ? Quelle position avoir par rapport à ça ? On en parlait au groupe de maison récemment, c'est vrai, avec David, qui n'est pas là, mais ce n'est pas grave, qui nous posait la question. C'est vrai, quelle attitude, en tant que chrétien même, nous devons avoir par rapport à ça ? Est-ce que nous devons être dans cette politique du j'utilise tout ça pour m'enorgueillir, pour mettre en avant mon ego, ou au contraire, même dans ça, je dois toujours me dire que je dois être centré sur Jésus ? Parce que ici, Jésus le montre bien à Simon, et dans sa façon de le faire, de le rabaisser gentiment, on voit, il dit oui, ici, il l'invite vraiment à être centré beaucoup plus sur lui, beaucoup plus sur sa personnalité de Jésus, qui est quelqu'un quand même d'humble, et de faire preuve d'un peu plus d'humilité. Et ainsi, sans doute, ne pas déverser uniquement son amour sur lui, mais avoir un peu plus d'amour pour les autres. On le voit bien ici, sur Jésus, hein, il le dit bien. Vous imaginez quand même que Simon, quand il l'a invité, il ne l'a même pas embrassé. J'imagine que quand vous invitez quelqu'un, quand même, vous lui faites la bise chez vous. Alors plus surprenant, il lui dit que tu ne m'as pas lavé les pieds, mais c'était une coutume à l'époque quand même. On voit bien qu'ici, il avait peu de considération pour les autres. En nous centrant sur Jésus, apprenons à avoir aussi, dans ce cas-là, un peu plus de considération pour les autres. Amen. Alors comment bien s'aimer ? Conclusion, vous l'aurez compris, en restant centré sur Jésus, en nous aimant et en nous voyant comme Jésus aime et nous voit. Amen. Pas en nous mettant trop, pas en nous rabaissant, mais juste au juste milieu. Alors, je vous invite du coup à partir sur la partie 2 et que j'ai donc titré aimer l'autre, aimer son prochain comme du coup Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime d'un amour parfait, on l'a chanté tout à l'heure. Amen. Bah oui, j'ai envie de dire, Jésus déjà nous aime d'un amour parfait quand même. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il s'est sacrifié sur la croix pour nous. Quelle plus belle preuve d'amour que se sacrifier pour d'autres. Amen. Et Dieu, quelle plus belle preuve d'amour que de donner son propre fils, son fils unique, pour les autres, pour la vie. Amen. Le verset qui dit dans Jean 3,16, vous le connaissez sans doute, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais alors vous allez me dire, « Geoffrey, c'est gentil, c'est vrai, l'amour parfait, c'est Dieu, c'est Jésus, mais moi je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Je vous rassure, moi aussi. » Amen, quand même. Mais du coup, comment je pourrais faire? Quelles sont les pistes? Est-ce que tu n'aurais pas des pistes? Est-ce que la Bible ne donnerait pas des pistes qui nous permettraient de savoir comment aimer au moins le mieux que l'on puisse le faire? Eh bien, si, il y en a une. Et pour ça, on va revenir au premier verset que je vous ai partagé pour introduire. 1 Corinthiens 13,2. On ne va pas s'arrêter à celui-là, on va aller un petit peu plus loin. Et deux versets plus loin, Paul, qui écrit l'Épître aux Corinthiens, justement, il définit ce qu'est l'amour parfait. Et je vous invite à lire ensemble, si vous voulez bien, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour parfait prend patience. L'amour parfait rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Alors c'est très court, mais c'est très riche à la fois. Et comme je ne voudrais pas reprendre chacune des facettes de cet amour, il y en a beaucoup quand même, j'aimerais quand même, il y en a 5 particulièrement, moi, qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé, et que j'aimerais, sur lesquelles j'aimerais insister avec vous ce matin. Que retenir? 5 facettes importantes, je trouve. Et la première, c'est la dernière, qui dit que l'amour parfait est patient et supporte tout. Moi, elle me parle particulièrement, ou alors elle parle à mon épouse, je ne sais pas. Ça fait 9 ans qu'on vit ensemble, et ça fait 9 ans qu'elle me rabâche la même chose. Geoffrey, quand tu mets tes chaussettes au sale, mets-les à l'endroit, s'il te plaît. Je vois que certains, apparemment, ils le vivent aussi. Alors je l'entends, je le rentre dans ma tête, je dis oui ma chérie, je le fais pendant 1-2 semaines et puis au bout de 2 semaines les mauvaises habitudes reviennent et puis je les balance comme ça et puis elle me dit Geoffrey, oh mais etc etc. Heureusement que son amour pour moi est patient et qu'il supporte tout. Bon j'ai pris l'exemple le plus soft et qu'elle supporte tout. Parce que je sais que parfois, on en rigole, mais parfois, dans notre amour pour les gens ou pour autour de nous, on a des personnes chez qui il y a des défauts comme ça qu'on ne supporte plus à un moment donné, qu'on n'en peut plus, on n'a plus de patience. Je sais que ce n'est pas facile, mais si nous voulons aimer notre prochain comme Dieu veut que nous aimions notre prochain, apprenons à avoir un amour patient, un amour qui supporte tout, même quand c'est insupportable. Amen. Deuxième facette sur laquelle je veux insister, je voudrais revenir, c'est l'amour parfait ne s'emporte pas. Et là, ben, ça fait le lien avec ce qu'on a dit juste avant. Parce que des fois, il y a des choses donc, qui nous insupportent chez les autres et ça nous insupporte tellement qu'on crie, qu'on s'emporte. Ma chérie, Pauline ne le fait pas. Elle ne crie jamais. C'est vrai pour les chaussettes, tu ne cries pas. Tu me dis, j'en ai marre, mais tu ne cries pas. On s'emporte. Et des fois, donc, des choses nous insupportent tellement qu'on peut s'empêcher de s'emporter, de crier, de s'énerver. Et pour ça, je sais que ce n'est pas facile. On peut prendre un exemple. Notre exemple, c'est Jésus. On regardait récemment La Passion du Christ. Peut-être que vous avez déjà vu ce film-là. Et pourtant, on le lit dans la Bible. Mais Jésus, une fois qu'il est sur la croix, alors qu'il a été frappé, molesté, c'est quand même difficile à aucun moment. Pourtant, c'est dur, hein, il s'emporte. Pourtant, moi, je peux vous dire que si j'avais été à sa place à un moment donné, quand je vois les gens me cracher dessus, me taper à un moment d'envie, j'aurais eu envie de me rebeller. Et de lui en cogner une, par exemple, à celui qui m'a craché dessus. Mais non, à aucun moment il le fait, et même plus fort. Une fois sur la croix, on en a pleuré même. La seule chose qu'il dit, c'est « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc derrière ça, il y a vraiment, voilà, il ne s'emporte pas, et il met en avant tout de suite le pardon. Donc je sais que ce n'est pas facile, mais si nous voulons aimer notre prochain comme Jésus veut que nous aimions, apprenons à avoir un amour qui ne s'emporte pas. Amen. Troisième point, troisième facette sur laquelle je voulais revenir, c'est l'amour rend service. Et j'avais envie de rajouter sans intérêt. L'amour parfait rend service. Il y a un verset que j'aime bien dans Actes 20, 35 qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et je sais que des fois, ce n'est pas facile parce que des fois, quand on donne en amour, on a l'impression de beaucoup donner à l'autre, mais pas d'avoir, de rien recevoir en retour. Ah, moi, je suis toujours là pour lui, mais en retour, quand je ne suis pas bien, il n'est pas là. Ou alors, cette personne-là, je l'invite toujours, mais en échange, jamais elle m'inviterait, elle. Hein. Vous avez peut-être déjà dit ces choses-là une fois dans votre tête. Et je sais que c'est parfois pas facile et que de toujours donner sans avoir un retour. Mais Dieu nous invite ici, si nous voulons aimer notre prochain du mieux qu'il soit, comme Jésus, comme Dieu veut que nous aimions, il faut que nous apprenions à avoir un amour qui rend service sans attendre en retour. Amen. Deux dernières facettes sur lesquelles j'aimerais revenir. L'amour ne jalouse pas. Et ça, c'est parfois pas facile parce que on sait qu'il faut se réjouir du bonheur des autres, mais quand on voit le bonheur des autres, peut-être que vous aussi, ça vous est déjà arrivé, on se dit, punaise, il y en a du bonheur. C'est bien, je suis content pour lui, mais Seigneur, moi, il est où mon bonheur? Ça fait tant de temps que je demande d'avoir ça et je ne l'ai pas. Lui, j'ai l'impression que toutes les semaines, il est béni. Ce n'est pas facile des fois. Alors, on veut bien se réjouir du bonheur des autres, mais je sais et j'ai conscience que parfois, et même dans ma propre vie, c'est difficile aussi de se dire, et moi, Seigneur, et moi. Mais le Seigneur, ce matin, nous dit aussi que même si ce n'est pas facile, si nous voulons aimer, avoir un amour pour notre prochain comme Dieu veut que nous l'ayons, il faut que nous apprenions à aimer, à nous réjouir du bonheur des autres et être patient pour revenir. J'ai aussi envie de dire ça parce que ça m'est venu en préparant ça, se dire que ce bonheur-là, à un moment donné, Dieu nous le donnera aussi. Amen. Et enfin, dernière chose, l'amour parfait. Fais confiance. Et je terminerai en revenant sur un exemple aussi qui nous a marqué, à moi et Pauline. C'était notre mariage. Ça va faire 5 ans qu'on est mariés en juin. Et ce jour-là, j'ai envie de dire, on a reçu beaucoup d'amour de personnes d'ici. Et j'ai envie de dire, je vais demander pardon parce que pour certains, on n'en a pas eu assez. Je vais vous expliquer pourquoi. Et notamment dans l'amour, fais confiance. Le matin même de notre mariage, on avait notre salle et il fallait tout installer. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour revenir installer. Pauline n'était pas là, moi j'étais là. Et il fallait donc tout installer. Vous imaginez, ce sont des mois de préparation, d'imagination, comment on va faire, comment on va organiser la salle. Pour ceux qui étaient là, vous en souvenez presque. Et j'ai envie de dire, quand on préparait ça avec mon épouse, on avait peur. Parce que c'était notre bébé. Et on se dit toujours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on avait tellement envie que ce soit parfait, etc., qu'on avait tout imaginé. On se dit, t'imagines s'il y en a un qui ne comprend pas, etc. On avait fait des feuilles. Bref, on a manqué de confiance, peut-être. Et il ne fallait plus faire confiance. Et ce jour-là, on a compris une chose. C'est que si les gens nous aiment, et si nous voulons aimer les gens, et si nous aimons les gens, il faut que nous apprenions à leur faire confiance. Et je peux vous dire, bon, elle est partie, mais ce jour-là, ce soir-là, quand Pauline allait rentrer dans la salle, moi, je l'avais déjà vue avant, elle en a pleuré. Elle s'est dit, waouh! Jamais j'aurais pu imaginer que les gens auraient fait autant de choses et que ce soit aussi parfait. Je sais que parfois, ce n'est pas facile de faire confiance. Parfois, on est déçu parce qu'on a aussi fait confiance à des gens. Et des gens ne nous l'ont pas rendu. Mais si nous voulons aimer comme Dieu, notre prochain comme Dieu veut que nous aimions, il faut que nous apprenions à avoir un amour qui fait confiance. Alors, Matthieu le disait aussi, je reprends ta prédication. Derrière ça, il y a aussi la notion de pardon si une personne ne vous a pas fait confiance. Et je sais que derrière la notion de pardon, c'est très compliqué. Et j'ai bien aimé une phrase dans sa prédication qui disait « Pardonner ne signifie pas oublier, excuser ou valider ce qui a été fait. Mais pardonner peut quand même valoir de temps en temps, veut parfois signifier de temps en temps qu'on peut aussi redonner sa chance. » Et si parfois, j'ai envie de dire, en amour, vous avez fait confiance à des gens qui ne vous l'ont pas rendu, apprenons peut-être en priant, bien sûr, derrière ça. Mais Dieu veut aussi nous inviter à refaire confiance, à retenter sa chance de ce côté-là. Amen. Que conclure sur tout ça? Pour conclure, j'aimerais revenir sur la notion de prochain. Parce que quand je parle d'amour depuis tout à l'heure, je suis sûr que dans votre tête, vous dites, vous imaginez ces facettes-là, cette notion d'amour au prochain, celui qui vous est proche, celui qui vous est proche de cœur, celui qui vous tient à cœur. Mais je reste persuadé que le Seigneur, que Jésus, quand il dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, dans la notion de prochain, il n'est pas aussi restreint que ça. Et que dans la notion de prochain, il voit beaucoup plus large. Pas seulement notre prochain, celui qui nous est proche de cœur, mais notre prochain aussi, celui qui nous est proche physiquement, celui qui nous entoure. Et j'ai envie de dire, parmi ceux qui nous entourent au quotidien, parmi notre prochain, ceux qui nous entourent et aussi qu'on n'aime pas, ce qu'on qualifierait de nos ennemis, qu'on n'aime pas ou qu'on sent qu'ils ne nous aiment pas. Et c'est pour ça que pour terminer, j'aimerais vous faire une invitation VIP. Alors vous n'êtes pas obligé de la prendre, je sais, ce n'est pas obligatoire. Mais j'aimerais vous inviter ce matin à saisir tous ensemble cette pièce numéro 4 du puzzle, la pièce de l'amour, la pièce la plus importante, et de la mettre directement en pratique si vous voulez, c'est toujours une invitation, la mettre en pratique cette semaine ou dans les semaines à venir. Et pour ça, on priera après, mais j'aimerais que vous puissiez penser à 3 personnes. Premièrement, pensez à une personne qui représente parfaitement votre prochain, celui qui vous est proche de cœur. Ça peut être un membre de votre famille, un ami très proche. Qui sait, en tout cas, vous le savez. Que vous puissiez penser à une deuxième personne qui représente votre prochain, celui qui vous est proche physiquement. Pas forcément que vous avez de l'accroche avec cette personne, ça peut être même une personne de l'église, que vous voyez tous les dimanches, vous dites bonjour, mais que vous avez, voilà, vous n'avez pas pris le temps en plus de discuter avec elle. Ou, voilà. Ou alors, ça peut être une personne à votre travail, ou même une personne que vous croisez tous les jours dans la rue, que vous dites, bon tiens, c'est marrant, je la croise tous les jours. Voilà. Une personne qui représente votre prochain, celui qui vous est proche physiquement. Et j'aimerais aussi que vous puissiez penser à une troisième personne qui représente votre prochain, mais dans la case ennemi, j'ai mis. Bon, c'est un peu gros, hein, la case ennemi. Mais une personne que vous voyez au quotidien, que vous croisez régulièrement, mais que vous n'aimez pas ou que vous sentez qu'elle ne vous aime pas. Ça peut être votre voisin qui vous réveille tous les matins, ou votre collègue qui vous insupporte et que vous dites, punaise, vivement que lundi, j'espère que lundi, je ne le croise pas, par exemple. Et j'aimerais que pour ces 3 personnes, on puisse, si vous voulez, c'est une invitation, hein, ce n'est pas une obligation, mais on rappelle, c'est quand même la pièce la plus importante, et puis c'est quand même un commandement, Jésus nous dit, aimer notre prochain comme soi-même, que nous puissions mettre en pratique ça dès cette semaine ou dans les semaines à venir. Et que pour ces 3 personnes, on puisse vraiment manifester de l'amour dans les semaines à venir. Alors comment ? En reprenant peut-être une des réponses au questionnaire, celle à laquelle vous avez répondu, ou celle même, une à laquelle vous n'avez pas répondu, en priant pour elle, en prenant de ses nouvelles, etc., je sais guère. Ou alors en reprenant une des facettes, une des 5 facettes ou d'autres citées dans 1 Corinthiens 4, enfin 13, versets 4 à 7, sur laquelle vous sentez que vous avez peut-être failli ou sur laquelle vous avez été interpellé et que vous aimeriez mettre en pratique. Et que de cette manière, dans la semaine à venir, dans les semaines à venir, nous puissions, donc, comme je l'ai dit, saisir pleinement la pièce numéro 4 du puzzle, la poser et faire en sorte que le puzzle soit terminé. Amen. Jésus le dit, c'est plus important, c'est rien de vivre des miracles, c'est rien de... Enfin, 1 Corinthiens 13 le dit, c'est rien de vivre des miracles, c'est rien finalement d'avoir une foi à transporter des montagnes. Si on a l'amour, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Amen. Et que de cette façon-là, on puisse aussi mettre en pratique ce commandement qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et qui est quand même, comme Jésus le dit, je réinsiste, un des 2 commandements qu'il dit avec « tu aimeras ton Dieu », bien sûr, mais un des 2 commandements les plus importants. Amen. Voilà. Je terminerai là-dessus. Si on peut prier. Si on peut prier en pensant aussi à ces 3 personnes. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire. Moi, forcément, j'ai préparé ça à l'avance. Donc, j'ai déjà ces 3 personnes en tête. Mais que l'on puisse vraiment le faire. Seigneur, mon Dieu, je te prie et je te remercie parce qu'on l'a chanté ce matin dans les différents chants. Seigneur, ton amour pour nous est grand. Ton amour pour nous est parfait. Ton amour pour nous est tout. Et tu l'as manifesté à la croix. Mais Seigneur, nous savons aussi, et tu l'as dit Jésus, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je te prie Seigneur tout d'abord pour l'amour de soi, et je prie Seigneur notamment pour ceux qui ont été interpellés. Peut-être que des personnes Seigneur ont été interpellées par le fait Seigneur qu'elles ne s'aimaient pas ou qu'elles n'avaient pas un amour juste d'eux-mêmes, un estime d'eux. Je te prie vraiment Seigneur que tu puisses vraiment le faire en sorte Seigneur qu'ils puissent se voir comme toi tu nous vois. Parce que Seigneur, certes, nous ne sommes pas parfaits, mais toi, tu vois bien au-delà de tout ça. Et même si nous ne sommes pas parfaits, tu nous aimes malgré tout, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions donc saisir pleinement ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en mettant en action, Seigneur, ceci concrètement dans la vie, dans notre vie de tous les jours. En pensant à ces 3 personnes, pas seulement, Seigneur, à cette personne qui nous est proche, Seigneur, de cœur, mais aussi à ces personnes que nous croisons au quotidien sans forcément faire attention. Et Seigneur, aussi ces personnes qui, et c'est parfois plus difficile, ne nous aiment pas ou que l'on n'apprécie pas forcément, Seigneur. Mais tu nous as dit de bénir nos ennemis Alors nous voulons vraiment le faire, Seigneur, ce matin. Je te prie et te remercie, Seigneur, pour cette journée. Je te prie et je te remercie pour chacun des gens ici présents. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses impacter nos cœurs et continuer à nous parler comme tu le fais. Gloire te soit rendue, Père éternel. Amen.